Chapitre 29. Notre-Dame d'amour. Quelques jours plus tard, à la ferme de la Sirène, « Mère, disait la fillette à la vieille pastorelle qui venait d'arriver, Mère, toute ma vie je resterai veuve, et j'aurai, avec la douleur d'avoir perdu mon mari, une autre douleur encore, je ne peux plus croire à Notre-Dame d'amour. Pourtant, depuis que je suis toute petite, j'avais foi en elle, je n'ai jamais manqué de la prier chaque matin de ma vie, aussi loin que je me rappelle. Que lui avais-je fait? Et Jean, que lui avait-il fait? Ne l'avait-elle protégé de la haine de Martégas qu'afin de le faire mourir plus méchamment, tué par son cheval le jour de la noce? Pourquoi? Il n'y a pas de bon Dieu, mère, il n'y a pas de bonne mère. » Et la pauvre petite éclata en déchirant sanglots à cette idée qu'elle perdait, en même temps qu'un mari bien-aimé, le père et la mère qu'elle croyait avoir dans le ciel. « Non, non, il n'y a pas de bonne mère. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. » Les deux femmes étaient assises tout près l'une de l'autre. La vieille prit la tête de Zanette contre son épaule décharnée, et elle levait au ciel ses yeux creux. « Ne dis pas de mal, Dieu t'entend, ne dis pas de mal. Le curé des Saintes est venu me voir ce matin de la part du curé de Saint-Trophime. Il m'a parlé et je sais ce que je dois faire. C'est pourtant bien dur, mais je le ferai. Notre-Dame est bonne, on ne sait pas tout. Si on savait les raisons pourquoi, on se résignerait toujours. Le mal qui nous vient a ses raisons justes. Seulement, on ne sait pas. » Le curé m'a dit comme ça, le mal qui nous arrive ne nous vient jamais du hasard, ni des bêtes, ni du bon Dieu. Il vient du fond de nous-mêmes. Il a raison, le curé. Les hommes, c'est faible. Ayez pitié de nous, Notre-Dame d'amour. » La vieille, depuis sa conversation avec monsieur le curé, était en proie à une sorte d'exaltation mystique. Elle reprit. « Tu ne sais pas, petite, la selle à la gardiane, la bride et tout, tout ce qui a servi au cheval le dernier jour, il ne faut pas que d'autres s'en servent jamais. Je veux, dans votre chapelle, les consacrer à Notre-Dame d'amour. Là, personne n'y touchera plus, on n'oserait prendre ce qui est à elle. Viens avec moi, Zanette. » « Non, non, je n'irai plus, je n'y veux plus aller, allez-y seule, mère, le valet portera les choses. » « Allez-y sans moi, les choses sont là, à côté. » Depuis la mort du cheval, la selle, dans une chambre voisine, avait été déposée sur des sacs de pommes de terre. Elle dormait là, sur les sacs, posée le cuir en dessous, les panneaux en l'air, écartés. La selle dormait là, sur les sacs. La vieille femme s'en approcha, la regarda avec émotion. Tout à coup, elle poussa un cri. Zanette se leva, accourut. « Qu'y a-t-il, mère ?»« Regarde !» Le doigt maigre de la vieille désignait une crevée, un trou dans le rembourrage, et dans ce trou apparaissait, encastré étroitement, un petit caillou à pointes aiguës. « Oh mon Dieu !» cria Zanette. « Oh mon Dieu, est-il possible ? Oh, je comprends, je devine, cela vient pour sûr de cette Roseline !» La vieille eut un de ces mots, comme en trouvent les gens de cette race descendante des Grecs, des Latins, et qui ont des esprits nourris de légendes et de chansons très anciennes. « Ça, petite, ça vient de Martégas, dit-elle, c'est son âme. » Les yeux de Zanette étincelaient, sa lèvre pâle tremblait. Une résolution sans merci se voyait dans tout elle. « Je me vengerai de cette femme, dit-elle, sûre, je me vengerai d'elle. » « Il ne faut pas se venger, jamais, dit la vieille. Regarde ce pauvre cheval, sa mort est injuste. Non, non, il ne faut pas se venger. Plus que jamais, je pense comme monsieur le curé. Il a raison, on ne sait pas tout. Il ne faut jamais juger le bon Dieu. Rien n'arrive que par la permission de là-haut. Viens tout de suite, viens avec moi. Prends la clé de la chapelle, j'ai une chose à te dire que je ne dois dire que là. » Elles entrèrent dans la chapelle misérable où souriait la Notre-Dame d'or. La vieille s'agenouilla. Par habitude de respect, Zanette, quoique toute révoltée, en fit autant. La vieille fanatique des Saintes-Maries de la Mer, la face illuminée, les yeux levés brillant sous l'arcade sourcilière profonde, prononça, en manière de prière et de lamentation funèbre, « Souvenez-vous, ô Vierge Sainte, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui vous ont prié ait eu en vain recours à vous. Puis-je laisser cette petite, qui, aujourd'hui, a droit de me nommer sa mère, que je garderai de tout mal et que je marierai, j'espère, à quelque autre de vos enfants pour acheter la faute de mon fils? Puis-je la laisser, cette petite, vous accuser, vous méconnaître et mériter par là que vous lui retiriez votre bénédiction à jamais? Non, non, et mon fils ne l'a pas voulu. Hélas, et il faut, pour la punition de mes fautes, que je sois, moi, forcée de confesser celle de mon enfant, de mon propre enfant, de mon malheureux enfant. » Zanette étouffait, croyant deviner déjà. La vieille femme poursuivit. « Il le faut, bonne Notre-Dame. Si vous avez permis qu'il meure par le moyen de cette femme, à qui, en votre nom, nous devons pardonner, c'est qu'il avait commis une faute d'amour. Il avait, devant moi, juré sur l'image et sur le rameau béni. Il n'a pas tenu sa parole, et il a dit au curé de Saint-Trophime de me venir répéter sa dernière pensée. Il a dit en mourant, « J'ai mérité mon sort, je suis allé me le chercher, j'ai couru après mon malheur. Dites aux deux femmes, à ma mère et à ma fiancée, monsieur le curé, que je n'étais pas sûr de moi. Mieux vaut peut-être que je meure. Ma mort, peut-être bien, les préserve de plus grands malheurs. Il a dit cela, il l'a dit, et j'ai voulu à cette petite ne le répéter que devant vous, ô Notre-Dame d'amour. » Zanette, effarée, écoutait, haletante, presque terrifiée. La vieille poursuivait sa prière, lamentée à la manière des vocératrices corses. « Comment lui faire comprendre à cette innocente que mon fils l'aimait et que, tout en l'aimant de tout son cœur, en désirant avec amour en faire sa femme, il ait pu, malgré son serment, aller revoir l'autre, lui parler encore, lui parler seulement, mais lui parler sans avoir horreur de lui-même. » Zanette poussa un cri et se prosterna le front contre terre. Elle se rappela, à ce moment, de quel tressaillement il avait été agité sous le regard de Roseline à l'arrivée à Arles, le jour du mariage. Ce frisson passa de nouveau dans ce petit bras dont elle entourait, ce jour-là, la taille du cavalier. Elle comprenait tout maintenant. Si Notre-Dame, le jour où il avait été blessé dans les arènes, l'avait si visiblement protégé, c'est qu'il avait, lui, ce jour-là, renoncé dans son cœur à Roseline, tandis que, le jour même du mariage, il avait, sous le regard de cette femme, tressailli d'amour coupable aux côtés même de sa fiancée. La vieille se lamentait toujours. « Il courait à la faute, il serait retourné au péché mortel. Et vous, qui êtes mère comme moi, vous avez préféré qu'il meure pour son salut, plutôt que de vivre pour le péché. Vous me l'avez repris, ô Notre-Dame d'amour, que votre volonté soit faite, que votre saint nom soit béni. Il ne peut venir de vous que de la justice, ô Notre-Dame d'amour. Qui sait où cette femme l'aurait conduit? Hélas, où elle va sans doute elle-même à une vie de perdition et de honte. » Et Zanette, la veuve enfant, écrasée par la douleur, se rappelait l'histoire du pauvre chien qu'elle avait tant pleuré lorsqu'elle était toute petite. Et voici qu'à son tour, à l'exemple de la vieille, elle parlait en même temps qu'elle, en se lamentant comme elle, et elle répétait stupéfaite, elle répétait sans fin, à travers ses sanglots et ses gémissements, « Pardon, pardon de vous avoir renié, d'avoir douté de vous, ô Notre-Dame. Ma peine est grande, bien grande, la peine qui me vient de lui. Mais vous, au moins, vous me restez. Je vous serai fidèle, ô Notre-Dame. Toute ma vie, je vous prierai, toute ma vie. Ô bonne Notre-Dame, je me consacre à vous seule, dès aujourd'hui. » Comme autrefois, ma mère m'avait voué au Sainte-Marie qui m'avait délivré d'une mauvaise fièvre. L'amour pour moi a été méchant, je n'en veux plus. La vie bonne sera pour d'autres, ô Notre-Dame. Ma petite sœur, plus heureuse que moi, se mariera, elle, quelque jour. Eh bien, alors, ces enfants, ô madame, deviendront les miens, je vous promets qu'ils seront comme les miens. Ainsi, je vous serai à jamais dévouée et de mon mieux je vous serai pareil, je serai pareil à vous, ô Notre-Dame, à vous qui êtes vierge et mère. » Et longtemps les deux voix unies, la voix fine et pure de l'enfant, la voix ferme de la vieille, répétèrent en litanie plaintive « Protégez-nous, ô Notre-Dame d'amour! Préservez-nous du mal, ô Notre-Dame d'amour! Sauvez, s'il se peut, la méchante femme, ô Notre-Dame d'amour! Pardonnez à notre chère mort, ô Notre-Dame d'amour! Ayez pitié de nous, ô Notre-Dame d'amour !»